Beaumarchais, un aventurier de la liberté. Par Éric Orsenna. Aujourd'hui, un révolutionnaire trop gai et trop musicien pour souhaiter la révolution.
La vie de Beaumarchais est une suite de folles journées. Mais au palmarès des folies, celle-ci tient le pompon. C'est le 12 octobre 1781. Dans un petit salon de Versailles, Madame Campan lit. Rien d'étonnant, c'est son premier métier. Avant de grimper dans la hiérarchie des servantes et d'atteindre au titre de femme de chambre de la reine, c'est comme lectrice des filles de Louis XV qu'elle a été embauchée. Mais sa lecture de ce jour a ceci de particulier qu'elle lit seulement pour Louis XVI et pour Marie-Antoinette. Et qu'elle ne lit pas un livre, mais l'un après l'autre des feuillets épars. Ensemble, ils constituent une pièce de théâtre qui deviendra plus tard le mariage de Figaro. Les comédiens français ont eu beau l'accepter d'enthousiasme et le censeur avoir donné son accord, Louis XVI veut se faire une idée par lui-même. Dans l'intimité, et sans le filtre, souvent trompeur, d'un acteur. D'où la demande à Madame Campan, qui s'acquitte de sa tâche de la meilleure des manières. Elle lit bien, sa conscience professionnelle le lui ordonne, mais d'une voix unie. Elle ne joue pas, elle ne met pas le ton. Surtout, elle s'interdit d'exprimer la moindre opinion sur ce qu'elle lit. Elle se mord les lèvres chaque fois qu'elle pourrait sourire, et les occasions sont nombreuses. De temps à autre, la curiosité l'emporte, elle veut savoir ce que pensent ses augustes auditeurs. Alors elle lève les yeux et voit le roi gagné par une colère de plus en plus manifeste, tandis qu'à l'inverse, Marie-Antoinette se délecte. À peine Madame Campan a-t-elle reposé le dernier feuillet que Louis XVI, d'ordinaire si placide, explose. « C'est détestable, ce ne sera jamais joué. Cet homme déjoue tout ce qu'il faut respecter dans un gouvernement. » Et d'ajouter... Soudain visionnaire, sa représentation ne pourrait être qu'une inconséquence fâcheuse, sauf si la Bastille était détruite. Rappelons la date de cette lecture, 1781. Quoi qu'il en soit, ce royal courroux est une mauvaise nouvelle pour Figaro. Son mariage devra encore attendre. À Paris et ailleurs, on s'impatiente. Dans son Barbier de Séville, représenté avec le succès que nous savons 3 ans plus tôt, Beaumarchais annonçait une suite. Et nous sommes ainsi faits que nous vendrions notre mère pour connaître l'autre côté de la colline, je veux dire les chapitres à venir d'une histoire. Notre âme est addictive. Voyez notre dépendance, hier au feuilleton, aujourd'hui aux séries. Pour tenir en haleine son public, tout en arguant les autorités, l'auteur multiplie les lectures privées. Et faisons-lui confiance, n'étant pas tenu à la même réserve que la femme de chambre, il incarne tous les personnages. Il est le comte, il est chérubin, il est Suzanne. Puis sans effort, il devient comtesse. La rumeur monte. Elle déborde les frontières d'une Europe plus européenne qu'aujourd'hui, au moins parmi les élites qui toutes parlent français. Paris nous a encore fabriqué un chef-d'œuvre, oui, un délice de méchanceté et de pertinente impertinence. Écoutez comme il parle de la loi, indulgente aux grands, dure aux petits. Et ceci, il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. Et encore, on pense à moi pour une place, mais par malheur j'y étais propre. Vous en voulez une autre? Attendez, je l'ai noté. La politique, feindre d'ignorer ce qu'on sait, de savoir tout ce qu'on ignore, d'entendre ce qu'on ne comprend pas, de ne point ouïr ce qu'on entend, paraître profond quand on n'est que vide et creux, tâcher d'ennoblir la pauvreté des moyens par l'importance des objets. Ah, ce Beaumarchais, quelle acuité, quelle audace! D'ailleurs, ne serait-il pas l'ami des rebelles américains? Celui-là même. Et vous ne savez pas la meilleure? Le roi de France interdit l'œuvre. Faut-il qu'elle contienne des bombes? D'ailleurs, je viens d'apprendre que l'empereur Joseph II lui a aussi fermé tous les théâtres d'Autriche. Il faudrait qu'ils se mettent d'accord dans la famille. Sa sœur Marie-Antoinette ne jure que par la folle journée. De nouveau, la vie devient théâtre, aussi riche en surprises, aussi fertile en rebondissements. Versailles est divisé. Beaumarchais y a des soutiens puissants. Outre Marie-Antoinette, le comte d'Artois, par exemple, le frère du roi. Jugeant désastreuse l'interdiction, il suggère une représentation privée des comédiens français dans la salle dite des menus plaisirs au cœur de Paris. Mais juste avant la date prévue, le 13 juin 1783, un envoyé arrive au galop pour arrêter les répétitions par ordre du roi Louis XVI. Pour éviter une prison qu'il sent approcher à grands pas, Beaumarchais court se réfugier à Londres. Ses amis ne baissent pas les bras. L'un d'entre eux, un autre comte de Vaudreuil celui-là, prie les comédiens français de bien vouloir venir jouer la folle journée en son château au nord-ouest de la capitale. Avant de donner son accord et pour plus de sûreté, Beaumarchais demande l'avis d'un nouveau censeur officiel, Nil Obstat, en langue vulgaire, allez-y. Un convoi transporte donc les décors, les costumes, les maquilleuses et toute la troupe vers le château de Gennevilliers. Louis XVI est ouvertement défié. Comment va-t-il réagir? Jusqu'au dernier instant, on craint de se retrouver tous à la Bastille. Mais le rideau se lève, sans mauvaise nouvelle de Versailles. Cette fois, pas besoin de corriger la moindre phrase, c'est un triomphe. Et maintenant, un vrai théâtre recevra-t-il l'autorisation? Pour en avoir le cœur net, un quatrième censeur est sollicité. Son appréciation est négative. Qu'à cela ne tienne, il suffit d'en consulter deux autres qui crient au chef-d'œuvre. Vive la censure! Et Louis XVI finit par céder. Le 27 avril 1784, Paris ne parle que de la folle journée. On se bat pour les places. Une véritable émeute entoure le théâtre du Luxembourg. La foule piaffe et frétille. Le rideau se lève sur le matin d'un mariage. 19 pieds sur 26. Figaro mesure le lit que le comte a offert au tourtereau. Mais à aucun prix, Suzanne ne veut de ce cadeau. Et pour quelle raison ce refus? La mécanique est lancée, elle emporte la salle. 2 heures plus tard, le temps pour Bridoison le Bègue de nous livrer sa conclusion. Tout fini par des chansons. Beaumarchais, sous les acclamations, aura atteint le sommet de sa vie. Mais nul n'habite longtemps le plus haut. Une partie de lui en redescendra avec d'autres pièces, moins réussies, avec d'autres appréciations, moins flatteuses de sa personne suite à d'autres de ses activités bien plus contestables. Mais de lui demeurera, sans que nul ne songe à la contester, la perfection de cette journée, appelée à devenir bientôt le mariage. Il semblerait que j'eusse ébranlé l'État. L'excès des précautions compris et des cris qu'on fit contre moi décelait surtout la frayeur que certains vicieux de ce temps avaient de s'y voir démasqués. La pièce fut censurée 4 fois, cartonnée 3 fois sur l'affiche à l'instant d'être jouée et dénoncée même au Parlement d'alors. Et moi, frappé de ce tumulte, je persistais à demander que le public restât le juge de ce que j'avais destiné à l'amusement. Je l'obtiens au bout de 3 ans, après les clameurs, les éloges, et chacun me disait tout bas, « Faites-nous donc des pièces de ce genre, puisqu'il n'y a plus que vous qui osiez rire en face. » Préface au mariage de Figaro. Conscience à l'auteur du pouvoir de son œuvre. Avance-t-il sans savoir, et parfois contre lui-même? Dans sa préface au mariage de Figaro, Beaumarchais écrit avoir formé son plan d'une façon à y faire entrer la critique d'une foule d'abus qui désolent la société. Mais se voulait-il pour autant accoucheur de sociétés nouvelles? Pressentait-il le rôle ravageur et décisif qu'un Danton lui assignera? Cet homme a tué la noblesse? Parfois nos mots ont plus d'audace et frappent plus fort que nos volontés conscientes. Ne leur reproche-t-on pas d'ailleurs d'avoir dépassé notre pensée? Quelle formule plus assassine que cette apostrophe de Figaro dans son monologue du début de l'acte 5? En s'adressant au comte, c'est au fondement même de l'Ancien Régime qu'il s'attaque. Qu'avez-vous fait pourtant de bien? Vous vous êtes donné la peine de naître, et rien de plus. Du reste, homme assez ordinaire. Pauvre Beaumarchais, changé aux yeux de l'histoire en incendiaire d'Ancien Régime, alors que parmi toutes les sociétés possibles, sa préférée est celle dont il se moque. L'un de ses biographes, Philippe Van Tieghem, aura cette remarque fine. Qu'est-ce que la gaieté, sinon le signe d'un accord avec le monde? Et quel être plus gai que Beaumarchais? Les révolutionnaires sont des sombres. Ils se ressemblent et ressemblent au siècle qui les a vus naître. Mieux, ils l'incarnent ce siècle-là dans sa passion de la liberté. Et l'incarnant, il contribue à le créer. Vous connaissez de bonnes pièces, sans de beaux personnages? Ils sont nés proches dans le temps, 1725, 1732, 1749, et pas si loin dans l'espace, un en France et les deux autres en Italie. Tous les trois n'ont cessé de courtiser, à commencer par les dames. Tous les trois ont écrit, tous les trois des chefs-d'œuvre, et tous les trois, plus ou moins sévèrement, ont eu maille à partir avec les autorités. Le premier est vénitien, il s'appelle Giacomo Girolamo Casanova. Successivement ou concomitamment, violoniste, magicien, espion, diplomate, bibliothécaire. Le deuxième est notre parisien, le fils d'horloger. Le troisième est né juif à Ceneda, province de Trévise. Vite converti au catholicisme, Lorenzo da Ponte devient prêtre. Professeur au séminaire de Porto Gruaro, il en est renvoyé pour « mauvaise conduite ». Mais Venise l'accueille. Il s'y débauche tant qu'on le chasse. Imaginez, être chassé de Venise pour « mauvaise conduite », il faut le faire. À Vienne, il se range et devient le poète officiel de l'empereur Joseph II. C'est là, bien au chaud dans cette ville froide, qu'il va trouver sa voix, le livret d'opéra. Il collaborera avec les plus grands musiciens du temps, Martini Soler, Salieri et Mozart. À lire les mémoires de ces trois-là, à plonger dans leur biographie, un vertige vous prend. On dirait que leurs trois existences communiquent, qu'elles se répondent l'une l'autre, qu'elles se prolongent, se complètent, se réparent. Beaumarchais et Casanova partagent la même vitalité. C'est un vraisemblable ressort qui leur permet de se sortir des situations les plus compromises. La même inépuisable gourmandise des femmes, la même joyeuse inventivité pour les séduire, le même allant dans l'écriture, cette même intelligence lumineuse, la même lucidité impitoyable et rieuse, le même galop narratif. Mais Beaumarchais et da Ponte seront frères par l'opéra. Et la musique est un fluide qui, pour unir, vaut bien le sang et le lait. Depuis quelque temps, le vénitien gagne sa vie comme librettiste. En 1785, il cherche un sujet. La folle journée de ce Français s'impose. Dans l'Europe entière, on ne parle que de cette pièce. Il la propose à Mozart, qui s'emballe. Encore faut-il que l'empereur d'Autriche donne son accord. Da Ponte promet à Joseph II de raboter les insolences les plus vives. Et c'est ainsi, en 3 semaines, dit la légende, que naît l'autre chef-d'œuvre, Wolfgang Amadeus, composant les airs, au rythme où Lorenzo lui remet les scènes. Par quel mystère l'auteur du mariage, pourtant musicien, ne s'intéressa pas aux noces? Jalousie? Regret? Contrairement à d'autres créateurs, Beaumarchais n'est pas du genre à s'arrêter sur le passé pour gérer son œuvre en sourcilleux père de famille. Mais un autre lien unit le Parisien et le Vénitien, celui d'un rêve commun. Toute sa vie, Pierre-Augustin avait projeté de quitter la vieille Europe, ses tracas et ses contraintes, pour gagner le pays de la liberté. Pour un entrepreneur de sa sorte, quelle plus exaltante aventure que participer à la création de ces États-Unis tout neufs. Seul le veto du ministre Talleyrand n'en l'avait empêché. Ce rêve d'Amérique, Lorenzo va le réaliser. Il débarque à New York en 1805. Recommençant sa vie à 56 ans, il tente d'abord sa chance dans le commerce du tabac, puis dans celui de l'alcool, avant de devenir libraire. Il finira sa vie comme professeur d'italien dans un collège qui deviendra l'Université de Columbia. Jusqu'à sa mort, à 90 ans, il ne cessera d'inviter les plus grands artistes de Naples et de Milan à venir chanter Don Giovanni, son autre livret préféré.
Incana il vino, calla la testa, pure gran festa fa preparare. Se trovi piazza qualche ragazza, e con quella cercami dar, e con quella cercami dar, cercami dar, cercami dar. Senza l'agonone della tantasia, il minuetto, il la follia, il la rimanda, farà velar. Il minuetto, farà velar, il la follia, farà velar, il la rimanda, farà velar. Ed io frattanto, all'altro canto, questa è quella, può amore già, può amore già, può amore già. Alla femminista, doma mattina, una decina devi aumentar. Alla femminista, una decina devi aumentar. Se tu piazza qualche ragazza, tengo con quella, cercami l'or. Alla femminista, doma mattina, una decina devi aumentar. Senza che morte nella fantasia, il minuetto, il la follia, il la levanda, farmi l'or. Alla femminista, doma mattina, una decina devi aumentar, una decina devi aumentar, una decina devi aumentar, devi aumentar, devi aumentar, devi, devi aumentar.
Si Beaumarchais se désintéresse des noces engendrées par son mariage, c'est qu'un autre grand projet l'occupe. L'ex-harpiste, ci-devant répétiteur des filles de Louis XV, veut revenir à la musique. Convient-il d'expliquer cette volonté soudaine? Le besoin d'harmonie ne peut-il vous prendre à tout âge? Certains avanceront que, devenu sourd depuis peu, obligé de tendre un cornet pour entendre, Beaumarchais voulait profiter des dernières capacités de ses oreilles. Après son triomphe au théâtre, comment aller plus loin? Une seule solution, changer de genre, aller vers l'opéra. Composé lui-même, il ne tombe pas dans le piège. Il sait bien que ces petites ritournelles fabriquées jadis au château d'Étiole n'étaient qu'amusement. Il va rester dans sa compétence, raconter une histoire en devenant librettiste. Ainsi, sans être musicien soi-même, on se faufile dans le royaume de la musique. Mozart étant occupé, qui se choisir pour partenaire? Sa préférence va vers Gluck, né en Allemagne, ce déjà vieux monsieur, 70 ans, est une célébrité voyageuse. Sa seule patrie est l'Europe, qu'il parcourt en tous sens, toujours gourmand de musique, où qu'elle puisse voir le jour. Son Iphigénie en Aulide n'avait-elle pas triomphé à Paris, 10 ans plus tôt, avec un livret français? Beaumarchais l'invite, le traite, le flatte, peine perdue. Le maître, d'abord séduit puis agacé, ne donne pas suite. Mais il lui suggère un élève, Antonio Salieri, celui-là même que la pièce de Peter Schaeffer puis le film de Milos Forman, Amadeus, feront connaître au monde moderne comme le mauvais ange de Mozart, son double envieux et maléfique. Gloire payée d'une terrible caricature. Ce natif de Vérone, en 1750, avait connu très jeune tous les succès, dont ses Danaïdes. Figurez-vous que pour en faciliter l'audience, Gluck avait annoncé partout qu'il en était l'auteur. Le grand soir venu, le délice de la supercherie, enfin révélé, s'ajouta aux vertus de l'œuvre. Ce 18e qui raffolait des masques ne pouvait qu'applaudir. Les deux hommes se plaisent. À son nouvel ami Salieri, Beaumarchais raconte Tarare, une intrigue, avouons-le, dénuée de tout intérêt. Nous voici à Ormus, entrée du golfe Persique. À Tarare, le tyran local ne supporte plus la popularité croissante de son général, le dénommé Tarare. Pour lui couper les ailes, il fait enlever sa femme, la très séduisante Astasie. Le sort qui lui sera réservé n'est pas indiqué, mais n'aura, selon toute probabilité, rien d'agréable. Heureusement, un duo de chanteurs italiens, esclaves d'Attar Veil, grâce à leur art et à leur intelligence, ils vont faire échouer ce plan cruel. Il faut dire que l'un des deux, Calpigi, jadis enlevé par les corsaires, a été sauvé par Tarare. À la suite de quelles aventures on ne sait, ce Calpigi a connu le vif déplaisir de l'émasculation avant d'être dédommagé par l'accession au titre, fort convoité, comme vous savez, de chef des eunuques. Et pour que la religion ne soit pas absente, n'oublions pas Arthénée, âme damnée du despote Attar, par ailleurs grand prêtre de Brahma, la divinité asiatique bien connue. Pauvre Beaumarchais, pourquoi cette grotesque turquerie? Dégénérescence sénile? Salieri en avait vu d'autres, puisqu'on le rémunérait bien. Il se mit au travail et composa ce qu'on attendait de lui, des mélodies et des danses. Cette œuvre impérissable fut créée le 8 juin 1787 et ne fut saluée que par des applaudissements modérés. De retour à Vienne, Salieri confia son désappointement d'avoir dû poser de la musique sur une histoire aussi nulle. « Qu'à cela ne tienne, lui répondit son ami da Ponte, nous sommes d'accord, le texte n'est pas fameux, je vais tenter d'arranger l'affaire. » Et c'est ainsi que Beaumarchais fut corrigé par le librettiste de Mozart. Décidément, vive l'Europe de ce temps-là, et vive ce siècle, emporté par la musique, l'amitié y saute les frontières.
Seigneur, c'est ce guerrier du peuple la merveille.
Garde-toi que son nom offense mon oreille.
Il pleure, autour de lui tout le peuple empressé. Dis-toi qu'en ses vœux il doit être exaucé.
Tu dis qu'il pleure, qu'il soupire.
Ses traits en sont presque effacés.
Urson qui entre, c'est assez.
malheureux. Je respire.
Le numéro 26, rue de Condé, avait eu beau remplir son office premier qui était de rendre heureux ses habitants, Beaumarchais rêvait d'une autre demeure. Pour un homme de son espèce, une maison n'est pas qu'un logis. Elle doit en même temps, premièrement, apporter au monde la preuve de la réussite exceptionnelle de son propriétaire, deuxièmement, inventer une architecture où pourront s'exprimer les meilleurs talents du temps, et troisièmement, donner l'occasion de réaliser une bonne affaire. Pour répondre à ce triple objectif, Beaumarchais se trouve, en plein cœur de la ville, un vaste terrain de plus d'un hectare, à l'emplacement des premiers numéros de l'actuelle rue Saint-Antoine. Certains de ses amis lui font valoir qu'il aura ainsi pour vis-à-vis direct la prison de la Bastille. Ce voisinage n'est pas fait pour gêner notre ami, bien au contraire. Ne parle-t-on pas du projet de détruire la trop vieille forteresse ? Débarrassées de ce sinistre voisinage, les habitations ne pourront que prendre de la valeur. Et pour quelqu'un qui, toute sa vie, a fait le pari de la liberté, il n'est pas sans piquant de venir narguer la plus célèbre des maisons d'arrêt, le symbole le plus honni d'un ancien régime pétri d'arbitraire. Les travaux commencent au début de 1788 et ne vont plus s'arrêter, dimanche compris. Ils atteindront la somme faramineuse de 700 000 livres, l'équivalent aujourd'hui de sans doute 5 millions d'euros. Et l'ensemble n'est pas racontable, il faut voir. C'est un palais que d'ailleurs Beaumarchais ouvre à la visite. Et bientôt les Parisiens viennent en famille s'émerveiller. On salue le buste de Voltaire qui vous souhaite la bienvenue. Il ôte aux nations le bandeau de l'erreur. On applaudit au bas-relief de Jean Goujon. On s'exclame devant les façades imitées de l'architecte renaissant Palladio. On flâne dans le jardin anglo-chinois. On saute de rocaille en rocaille. On se perd dans les fausses ruines. Le maître des lieux biche. Elle est bien loin, l'échoppe de la rue Saint-Denis et son atelier de montres. Mais cette félicité triomphante ne va pas durer. La Bastille n'est pas qu'une prison à huit tours. C'est un quartier. Sans doute le quartier le plus industrieux de Paris. Outre les artisans du meuble, se sont rassemblés par dizaines de milliers des fabricants de carrosses, des verriers, des céramistes, des chaudronniers, des tisseurs, des tanneurs, des salpêtriers. Et c'est là, fin avril 1789, au coin de la rue de Montreuil et du faubourg Saint-Antoine, c'est là que s'enclenche la folle mécanique de la Révolution. Les établissements Réveillon, la première fabrique européenne de papier peint, emploient 350 ouvriers. Lorsqu'on leur annonce une baisse de leur misérable salaire pour embaucher plus et donc résoudre le chômage, rengaine bien connue, ils se révoltent. Une foule énorme marche sur l'usine que sont venus protéger les gardes français. La journée s'achèvera sur un bilan terrible, plus de 40 morts et 400 blessés. Beaumarchais, aux premières loges, n'a perdu que ses bas-reliefs de Jean Goujon, luxe insultant pour les manifestants. Deux mois plus tard, le mouvement change d'ampleur. Cette fois, les Parisiens ne déchirent pas des papiers peints, ils prennent la Bastille. Beaumarchais, qui ne concevait son existence que plongé au cœur de l'époque, n'aurait pu choisir géographie plus pertinente. Spectateur privilégié, c'est bien, mais ô combien insuffisant. Regarder nourri, mais tellement moins qu'agir. Comment participer au nouveau monde quand on est connu, bien trop connu, pour appartenir à l'ancien. Et votre santé, madame ? Pas trop bonne, monsieur Figaro. L'ennui me tue. Le Barbier de Séville, acte 2, scène 1.
C'était Beaumarchais, un aventurier de la liberté, par Éric Orsena. À la technique, Alain Joubert. Réalisation Rafik Zénine.